France Musique.
C'est l'un des plus passionnants pianistes français que nous avons la joie de recevoir ce matin en direct. L'un des plus intègres aussi et des plus attachants. Bonjour Jean-Philippe Collard.
Bonjour.
Un nouveau disque qui va faire date dans l'interprétation des Goyescas de Granados que l'on redécouvre. Plus méditatif que jamais, c'est bouleversant. Le disque paraîtra ce vendredi chez la Dolce Volta. On va en écouter quelques extraits jusqu'à 9h ce vendredi aussi. Un concert au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, une salle dont vous êtes très familier. Et puis un livre où vous racontez par épisode, par chapitre et où vous livrez certaines de vos pensées. Ça s'appelle « Chemin de musique » et ça paraît chez Alma. D'abord une question, Jean-Philippe Collard. La retraite, tout le monde en parle, cet âge pivot de 64 ans, retiré provisoirement par Édouard Philippe. Vous en avez 71, bientôt le 27 janvier 72. Heureusement pour nous, vous ne la prenez pas, votre retraite. Est-ce qu'un pianiste, ça prend sa retraite?
Non, je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas, c'est pas... Est-ce qu'il faut considérer le métier que je fais comme un véritable métier? Et la réponse est non aussi. De toute façon, la musique est un compagnonnage de chaque jour. M'en priver pour des raisons mécaniques ou administratives serait un crève-cœur. Il y a évidemment une grosse part de travail dans la mission des artistes, des interprètes, mais il y a aussi une immense dimension, c'est celle du plaisir et celle du besoin surtout de rejoindre son clavier chaque matin. C'est comme un appel, c'est le désir absolu de faire résonner quelque chose d'harmonieux et par la voix des doigts, de la pulpe, de faire sonner un instrument, c'est un remerciement pour tout le travail effectué avant. Donc ne serait-ce que pour cette raison, je jouerai jusqu'à mon dernier jour, si toutefois mes capacités physiques m'y autorisent.
Bien heureusement que vous jouez toujours et que vous avez fait ce choix des Goyescas de Granados. C'est un disque qui paraît vendredi chez la Dolce Volta. On pourra en entendre d'ailleurs des extraits de ces Goyescas vendredi également à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Et en voici en avant-première donc, puisque le disque n'est pas encore sorti, un fandango à la chandelle. Thank you. Voilà, bah on a tout écouté, le fandango à la chandelle, parce que c'est difficile d'arrêter le disque. C'est un premier extrait de ces Goyescas de Granados par Jean-Philippe Collard. Le premier grand disque de l'année 2020 qui sort chez La Dolce Volta. Jean-Philippe Collard, je me trompe ou c'est votre première incursion au disque, en tout cas, dans la musique espagnole?
De l'autre côté des Pyrénées, oui, oui, c'est la première fois. À vrai dire, cette musique me faisait un peu peur, enfin la musique espagnole en général, précisément pour ces espagnolades que j'avais l'impression de...
Le folklore
de, oui, et ces petits principes d'écriture... j'avais un peu peur de ne pas avoir grand-chose à dire. Et puis, Granados est en recul par rapport à ça. Certes, la musique est trempée quand même dans la culture, dans le folklore et tout ça, mais avec une grande délicatesse, et c'est ça qui m'a bien inspiré. Et puis surtout, la vocalité, c'est-à-dire le sens de la phrase musicale qui ne s'arrête jamais et qui permet tellement de
combinaisons. Pour ça qu'on n'a pas pu chanter, comme on dit.
Voilà, voilà.
Comment cette partition s'est-elle retrouvée sur votre piano?
C'est la combinaison de plusieurs facteurs, en fait. D'abord, l'avoir entendu, en avoir eu connaissance plus précise avec un enregistrement de Jean-François Esser, en avoir parlé avec un certain nombre de mes amis alentour qui considéraient à juste titre que cette musique était peut-être la plus proche du répertoire français, notamment de Gabriel Fauré, qui avait beaucoup de similitudes. Donc j'étais un peu poussé et en même temps effrayé par la complexité de la partition. C'est d'abord tout un volume et ensuite c'est une écriture pianistique terriblement compliqué.
Qu'est-ce qu'il y a de très compliqué?
Alors, je m'égare un peu dans l'analyse, mais je crois que on peut dire raisonnablement, que Granados était un immense virtuose et il avait surtout une idée de l'espace qui couvrait l'ensemble de son clavier. Excusez-moi. Et c'est en fait ce qu'il y a de plus difficile. Il fait virevolter ses mains de gauche à droite. Vous allez me dire, c'est pas le premier parce qu'il en a connu d'autres. Mais lui, dans des conditions qui sont assez acrobatiques. Il mélange beaucoup les thèmes. Il les fait naviguer de la gauche à la droite et de la droite à la gauche. Et tout ça dans une sorte d'inconfort pour ce qui me concerne. Lui, il était très à l'aise. En revanche, on connaît quelques enregistrements de piano à rouleau. C'est un virtuose incomparable. Et il aimait ça. Il aimait. Et puis, alors, je crois surtout, il a été tenu par la concurrence d'Albéniz qui venait de faire paraître Iberia. Et il s'est dit jusque-là, j'ai composé des pièces de petit calibre. Il faut peut-être que je me mette à faire des grandes choses. Il a fait un chef-d'œuvre. Le voici. Et c'est incomparable. Mais c'est un énorme travail pour se sentir à l'aise avec son clavier. Enfin, je dis ça parce que j'y suis pas encore.
Goyescas. Inspiré et hommage au grand peintre Goya. Vous êtes allé hanter le Prado à Madrid?
Oui, mais enfin, j'ai pas trouvé de correspondance. C'est l'imaginaire qui parle. On peut dire la culture espagnole, le folklore, mais il n'y a pas de corrélation immédiate entre une toile de Goya.
Chaque pièce avec son titre, Balade de l'amour et de la mort, Dialogue derrière la grille, ne correspond pas à une toile, à une peinture.
C'est un support. C'est un support d'inspiration. Mais quel support, vous allez me dire.
Il y a aussi un lien avec Chopin, vous qui avez beaucoup
joué pour
Chopin.
Le lyrisme, oui, bien sûr, bien sûr. Comment vous dire si je vais vous dire quelque chose que tout le monde sait, mais qu'est-ce que c'est que le piano, sinon une main gauche qui bâtit l'harmonie et le rythme et une droite qui chante toutes les images du monde. Donc dès l'instant où cette ligne mélodique est développée, on fait corps avec elle, et puis surtout on repère en permanence pour dire aussi ce qu'on a au fond de son âme. Donc tout ce qui est lyrique, c'est ma partie, c'est le chant, c'est les harmonies qui composent ce chant, et c'est surtout une manière de parler, parce que le travail d'un pianiste, c'est extrêmement solitaire. Et la grande récompense, c'est de tirer une phrase et puis de laisser l'auditeur faire son enquête et savoir un peu ce qu'il y a derrière.
Granados et Frédéric Chopin sont au programme de votre concert vendredi au Théâtre des Champs-Élysées. C'était un précédent disque, ça, chez le même éditeur, la Dolce Volta, le prélude opus 28, numéro 16 de Frédéric Chopin. Vous jouerez tous les préludes vendredi au Théâtre des Champs-Élysées et quelques Goyescas de Granados avec également votre cher Gabriel Fauré. Théâtre des Champs-Élysées, une salle dont vous êtes plus que familier. Il paraît que vous êtes même le recordman des pianistes français. Quel mot l'aime.
Mais... Oui, j'étais un peu surpris d'entendre
le score. Vous vous sentez bien?
Oui, d'une certaine manière, c'est un idéal pour une salle de récital. Mais c'est aussi un peu une messe. C'est une salle qui est quand même, je dis pas qu'elle est austère, mais enfin à chaque fois qu'on s'y présente, c'est la solitude de l'artiste sur sa scène, son arrivée, les petits pas qu'il fait pour franchir jusqu'au piano, tout ça, ce sont des démarches que j'ai toujours considérées comme assez lourdes, assez pesantes, jusqu'au moment de la délivrance, c'est-à-dire au moment où le dialogue s'installe entre l'artiste et son public par le biais de la musique, mais il y a une formalité dans cette salle à laquelle il faut souscrire, voilà, et je la retrouve avec grand plaisir ce vendredi soir. Ouais.
Le track n'est jamais parti, vous vous sentez toujours comme un petit garçon avant un concert, comme vous l'écrivez.
Il est, non seulement il n'est pas parti, mais il vous rappelle à l'ordre, c'est incroyable, le track c'est une... Le résultat du track c'est la discipline. Le track vous dit exactement tous vos petits travers et toutes vos petites scories et vous engage à remettre sur le métier dès le lendemain matin tout ce que vous avez cru réussir. C'est sans fin au fond. Donc vous me parliez de la retraite tout à l'heure, mais il y a tellement de choses à perfectionner et de partitions à découvrir comme c'est Granados qu'il faudrait des vies entières.
Ce track que Vladimir Horowitz avait de plus en plus avec l'âge, vous avez bien connu Horowitz, vous en parlez dans Chemin de musique, ce livre qui vient de paraître chez Alma. Pourquoi avoir voulu, envie de vous raconter, on vous l'a demandé?
Oui. Oh oui, sans quoi je ne serais pas allé. On me l'a demandé sous une première forme qui était celle d'une conversation. Et puis j'ai trouvé que la transcription du langage parlé n'était pas exactement ce que je souhaitais pour dire le fond de mon cœur. Donc je me suis mis à la plume du premier jusqu'au dernier mot et j'ai pris un certain plaisir.
Vous écrivez très bien.
Oh ben je vous remercie.
C'est très agréable à lire.
J'ai pris un certain plaisir à non pas parler de moi. C'est difficile de tracer un J et un E. C'est pas dans ma nature. Donc j'ai pris des formes un petit peu bizarroïdes.
Oui, il y a pas, c'est pas une biographie, c'est pas une autobiographie de la naissance jusqu'à aujourd'hui en 2020.
Non. Ni un livre, un ramassis d'anecdotes, parce que bon, tout le monde en a raconté, mais je trouve que c'est pas très très intéressant. C'est surtout une sorte d'ode à la musique, quoi. C'est un remerciement à tout ce qu'elle m'a procuré. Voilà.
C'est aussi un regard sur le monde musical d'aujourd'hui, parfois un peu critique, sur un ego parfois très fort, les lois du marketing, la toute puissance des réseaux sociaux, tout ça, vous le regardez, ça vous inquiète?
C'est une autre partie de mon personnage, mais qui est pilotée par d'autres personnes. Moi, je n'ai pas, au fond de moi, je n'ai pas cette vocation à faire carrière, en fait. C'est ça. Mon ambiguïté, c'est ça. Je fais de la musique pour l'amour de la musique. Et c'est vrai que tout ce qui navigue autour, tout ce qui rentre dans la partie marketing, qui je reconnais est parfaitement utile de nos jours, mais ça m'échappe complètement. Heureusement que j'ai autour de moi des gens qui s'occupent un peu de tout ça, parce que sinon, je ne serais pas en face de vous.
Et pour vous, une carrière exemplaire, page 47, c'est celle de Roger Federer.
Bah, qu'est-ce que vous voulez
quand le tennisman suisse.
Quand, premièrement, on joue aussi bien au tennis, quand on fait plaisir aux gens, et puis en plus on est d'une élégance rarissime, un fair play à n'en plus finir, c'est la grande classe, quoi. C'est formidable.
Revenons à ces Goyescas et à ce disque la Dolce Volta. On va en écouter cette fois un extrait seulement, puisque ce sont des longues plages chez Goyescas. D'ailleurs, vous n'en jouez vendredi que c'est presque une heure de musique. Il y a quelque chose de plus lent, en tout cas, que certaines interprétations. Je pense à Alicia de La Rocha, quelque chose de très méditatif dans la façon que vous avez de les appréhender.
Comment vous répondre? Oui, peut-être. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Bon, bah, écoutons. De cette musique, de cette balade de l'amour et de la mort, Les Goyescas d'Enrique Granados par Jean-Philippe Collard, un disque qui paraît vendredi chez la Dolce Volta. Vous dites que Goya, c'est juste une évocation, un clin d'œil, une inspiration, mais c'est plein de couleurs en revanche, cette musique.
Oui, sûr, oui, bien sûr. Mais ça n'est quand même que prétexte. Et je crois que l'erreur serait d'aller rechercher le tableau qui convient et puis de se dire, je vais moi-même le décrypter. Qu'est-ce que je pense de ce tableau? Donc, on rentre dans une. Il faut une part de naturel quand même. Moi, je fais confiance à Granados qui a eu son inspiration et puis qui me transmet aussi son amour de Goya par l'intermédiaire de ce chef-d'œuvre. Donc, Donc voilà, je me régale en fait parce que j'ai en face de moi deux artistes majeurs. Et voilà, je prends tout ça pour moi. C'est formidable d'être pianiste, vous savez.
On écoute là ce disque enregistré il n'y a pas très longtemps l'année dernière, mais vous me disiez, j'aime pas trop réécouter les disques parce qu'il y a le côté figé et vous, votre vie, c'est le concert, c'est l'instantané, ne pas se réécouter.
Oui.
Fin janvier, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, vous n'allez pas jouer de la même façon qu'à Metz en mai.
Certainement, ça a beaucoup changé déjà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Comment vous dire, c'est comme nous changeons tous chaque jour qui passe. Et la musique s'imprime à son tout début et puis après... Elle est, comme je dis, météo-compatible. C'est sûr que vous n'avez pas la même humeur quand il fait beau, quand vous êtes triste, quand vous êtes gay, tout ça. Tout ça est reflété par l'interprétation. C'est ce qui, d'ailleurs, la rend intéressante, vivante. Mais vous avez raison, c'est un petit peu douloureux parfois. Certaines phrases ont déjà subi beaucoup, non pas d'altération, mais elles ont changé dans ma manière de les exprimer. Donc, j'aime pas trop réécouter le passé. Puis, c'est éphémère, n'oublions pas que tout ça, ça s'envole.
Jean-Philippe Collard, c'est encore différent quand on joue en plein été aux Flâneries musicales de Reims. Vous en êtes le directeur artistique depuis 9 ans maintenant de ces Flâneries qui, elles, ont une trentaine d'années.
Exact.
Est-ce que ça a changé votre rapport au concert de diriger, de choisir les musiciens qui viennent jouer? Comment?
D'abord, j'invite les gens que j'aime, enfin les musiques que j'aime, les gens que j'aime, certains artistes que j'ai le plaisir de pouvoir approcher. Ce qui ne me serait pas donné si je n'avais pas cette possibilité. Et puis, je me rapproche du public aussi, et je peux parler aux gens. Vous savez, le concert, c'est la scène, et puis les applaudissements, un bis ou deux, puis après, tout le monde disparaît, on n'a pas le temps de se saluer, on n'a pas le temps de se parler. On change de ville, on prend un avion, on change d'hôtel. Et là, soudain, c'est une position statique dans une ville que j'adore, Et je regarde les gens arriver au concert, profiter du concert, sortir du concert et livrer ce qu'ils ont vécu, mesurer leurs émotions. Et moi, ça me rapproche finalement de mon public, de celui que j'aime, avec qui je peux communiquer.
Statique à Reims, mais Chemin de musique, ce titre de livre qui paraît, c'était aussi un projet que vous avez eu, où là vous avez pris des chemins de traverse et joué un peu comme un itinérant troubadour de village en village avec les pianos.
Oui, pour les mêmes raisons, pour rester en situation de serrer des mains, d'échanger avec les jeunes, avec les moins jeunes. Puis de se trouver dans des conditions parfois miraculeuses, vous savez, de ces petites églises de campagne où il y a une acoustique absolument sublime. Et puis on est dans l'intimité du partage. Et c'est ma recherche plus que, vous l'aurez compris, les grandes salles traditionnelles que je ne rejette pas, mais qui font souvent un peu peur parce que le caractère intime risque de disparaître. L'échange n'est plus tout à fait le même.
À propos d'échange, pourquoi vous n'avez jamais enseigné, vous n'avez pas eu une grande classe de
non,
piano,
vous avez raison.
Des grands pianistes français
j'ai eu
ces 50 dernières années.
J'ai eu plusieurs occasions de le faire et elles n'ont pas fonctionné. Plusieurs occasions aux États-Unis où j'allais beaucoup à l'époque, mais il a fallu que je déménage ma famille entière et que j'aille vivre là-bas. C'est une idée qui m'a fait un peu peur. Puis une autre fois aussi pour des raisons d'humeur du directeur du conservatoire, je le dis dans mon livre, qui m'avait ouvert les portes et je rejoignais à cette occasion toute ma bande de copains qui enseignaient déjà. Et puis à la dernière minute,
Michel Béroff,
oui par exemple, ou Brigitte Engerer qui était là-bas et bien d'autres. Et puis le directeur qui m'avait fait cette proposition a soudain tourné Kazakh pour des raisons qui restent inexpliquées.
Mais vous assurez la direction artistique de l'Académie musicale française pour piano. Ce sera 3 sessions en février, avril et juillet. Salle Cortot à l'École normale de musique. Jean-François Esser, merci beaucoup d'être venu ce matin. Jean-Philippe Collard, pourquoi j'ai dit Jean-François Esser?
Je ne sais pas, mais après tout, pourquoi pas.
J'en profite
pour le saluer.
Une influence espagnole, Jean-Philippe Collard. Chemin de musique qui paraît chez Alma. J'invite d'ailleurs à réécouter l'émission que vous avez faite avec Philippe Venturini sous la couverture sur francemusique.fr. Ce disque, La Dolce Volta, qui vient de paraître de ces merveilleuses Goyescas de Granados. Et le concert vendredi au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Merci beaucoup. On se quitte presque du côté de l'Espagne, en Côte Basque, avec des gens que vous aimez aussi, Augustin Dumay et Frédéric Lodéon, et ce final du trio de Maurice Ravel. Merci Jean-Philippe Collard.
Bonne journée.
Vraiment les dernières secondes du trio de Maurice Ravel avec Augustin Dumay au violon, Frédéric Lodéon au violoncelle et Jean-Philippe Collard au piano.
À réécouter sur francemusique.fr.